Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 10 de la Sainte Sourate Balad. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
Non, j'en jure par cette cité. Or, c'est comme citoyen que tu es dans cette cité, et par l'engendreur et ce qui l'engendre. Très certainement, nous avons créé l'homme en lutte. Compte-t-il que nul ne sera capable contre lui? Il dit, « J'ai gaspillé beaucoup de biens. » Compte-t-il que nul ne l'a vu? Ne lui avons-nous pas assigné deux yeux et une langue et deux lèvres, et nous l'avons guidé aux deux voies.
« Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce jeudi soir, 6 mai 2021. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique et nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Restez avec nous. Merci de votre écoute. Le ministre iranien des Affaires étrangères a annoncé le soutien de l'Iran à l'intégrité territoriale de la Syrie et à la souveraineté de son gouvernement. Les hélicoptères israéliens ont frappé Kuneitra à la frontière syrienne avec la Palestine occupée et plus de 20 étudiants précédemment enlevés dans le nord-ouest du Nigeria ont été libérés. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères a annoncé le soutien de l'Iran à l'intégrité territoriale de la Syrie et à la souveraineté de son gouvernement avant de souligner la nécessité de respecter la Constitution et la légitimité de l'élection présidentielle en Syrie. Le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif et son homologue syrien Faisal al-Mirdad ont discuté de diverses questions d'intérêt mutuel, régional et international lors d'une conversation téléphonique ce mercredi 5 avril, a rapporté l'IRNA, citant le service de presse du ministère iranien des Affaires étrangères. Lors de cette conversation téléphonique, le ministre iranien, tout en affichant le soutien de l'Iran à l'intégrité territoriale et à la souveraineté du gouvernement syrien, a souligné la nécessité de respecter la constitution syrienne et la légitimité de l'élection présidentielle dans ce pays. Faisal Merdad a pour sa part brossé un tableau sur les dernières évolutions intérieures en Syrie, les préparatifs de l'élection présidentielle et les relations de Damas avec ses voisins. Il a invité à cette occasion le très haut diplomate iranien à se rendre en Syrie, une invitation à laquelle M. Zarif a répondu favorablement. Les deux hommes se penchent également sur d'autres sujets, à savoir d'importantes questions régionales, y compris les derniers développements en Irak et en Palestine, ainsi que la lutte d'Azimut contre le terrorisme et la condamnation des attaques du régime sioniste contre la Syrie, la Palestine et le Liban. Se référant à la journée internationale de Roth, les deux hommes ont réaffirmé leur plein soutien au peuple palestinien. L'Iran se réserve le droit d'avoir recours à tous les mécanismes juridiques, dont la Convention de Vienne sur les relations consulaires, a annoncé l'ambassade de la République islamique d'Iran à Bruxelles en réaction à la condamnation par la justice belge du diplomate iranien Assadullah Assadi. Dans un communiqué rendu public mercredi 5 mai, l'ambassade de la République islamique d'Iran en Belgique a exprimé ses vives protestations quant à un verdict émis par le tribunal belge contre un diplomate iranien. L'ambassade iranienne a accusé l'Allemagne et la Belgique d'avoir violé la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Les mesures entreprises par les gouvernements allemand et belge sont une violation flagrante du droit international et des procédures diplomatiques. Le verdict énoncé en février dernier par le tribunal à Anvers prouve comment la justice belge ignore la nature contraignante des engagements pris dans le cadre de la Convention de Vienne. La République islamique d'Iran a envoyé deux notes officielles à destination de la Belgique et de l'Allemagne pour leur rappeler l'immunité de M. Assadi en tant que diplomate, en vertu de la Convention de Vienne. Le tribunal belge n'est donc pas en mesure de traduire en justice M. Assadi en raison du non-respect de cette convention, indique le communiqué. M. Assadollah Assadi a été condamné à 20 ans de prison par un tribunal à Anvers en contradiction avec la Convention de Vienne. En juin 2018, simultanément à la visite du président iranien en Europe, la Belgique et l'Autriche ont annoncé avoir arrêté 5 personnes, dont un diplomate iranien pour avoir tenté de perpétrer un attentat à la bombe sur un rassemblement du groupuscule terroriste Monafarine qui se déroulait à Paris. Un couple belge d'origine iranienne a été arrêté à Paris et Bruxelles a annoncé qu'un diplomate iranien était en lien avec ce couple. Dans la foulée, le parquet allemand a annoncé que le diplomate iranien a fourni au couple belge un engin explosif contenant 500 grammes d'explosifs TATP. Les hélicoptères israéliens ont frappé Quneitra à la frontière syrienne avec la Palestine occupée. L'agence presse syrienne Sana a annoncé que des hélicoptères israéliens avaient frappé la région de Quneitra à la frontière syrienne avec la Palestine occupée jeudi matin, mais que l'attaque n'avait causé aucun dommage. Une source russe rapporte parallèlement le vol des chasseurs russes pour intercepter les avions israéliens. La télévision yéménite Al-Masira a indiqué, citant sa source sur le terrain, qu'une position militaire avait été attaquée par l'ennemi israélien dans le sud de la Syrie. L'un des points militaires de la ville de Jubhat al-Hashab, dans la banlieue nord de Quneitra, a été visé, mais aucun dégât n'a été causé selon cette télévision. Mercredi matin, l'agence de presse officielle syrienne Sana a rapporté que les défenses aériennes syriennes avaient riposté à des missiles hostiles visant à prendre pour cible des zones d'Alifa à Latakia et Masyaf dans la province occidentale de Hama. Auparavant, 4 soldats syriens avaient été blessés lors d'une frappe aérienne israélienne sur la région de Demir au sud du Rif de Damas. Le régime sioniste sait que son sort est la disparition et que l'axe de la résistance déterminera l'avenir de la région. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général du Hezbollah libanais Saïd Hassan Nasrallah. Dans un discours télévisé à l'occasion de la journée mondiale de Rots, diffusée par la chaîne libanaise Al-Mayadin, le secrétaire général du Hezbollah libanais Saïd Hassan Nasrallah a appelé tout le monde à déclarer sa position envers la question palestinienne avec sincérité et courage. Face aux jeunes Palestiniens qui ont fait le choix de résister, c'est la responsabilité de tout le monde d'annoncer clairement, avec sincérité et courage, sa position envers la question palestinienne et la résistance, a souligné Saïd Hassan Nasrallah. Le secrétaire général du Hezbollah a réfuté les propos de ceux qui prétendent que les Palestiniens se sont résignés à abandonner leurs idéaux et leur patrie car les événements qui se produisent ces derniers temps montrent que le peuple palestinien ne renonce absolument pas à ses droits et cela augmente la responsabilité de l'Oumma islamique. L'axe de la résistance reste toujours aux côtés des Palestiniens, surtout qu'aujourd'hui le régime sioniste est en proie à de graves crises internes, a ajouté Nasrallah. Le secrétaire général du Hezbollah libanais a estimé que le processus de compromis et de normalisation avec Tel Aviv a créé paradoxalement une situation qui permet à l'axe de la résistance de se faire mieux entendre dans le monde. L'axe de la résistance doit renforcer sa cohésion et augmenter sa puissance, car c'est lui qui déterminera l'avenir de notre région, a-t-il indiqué. Saïd Hassan Nasrallah s'est adressé ensuite aux dirigeants du régime sioniste en ces termes. Selon vos croyances religieuses, vous savez parfaitement que votre régime n'a aucun avenir et qu'il est en phase de disparition et de destruction. Je dis à vous, Israéliens, que dans cette grande épreuve, vous allez faire perdre l'énergie et les efforts de vos jeunes, vous les conduirez vers l'anéantissement et vous ferez perdre leur sang. Dans une autre partie de son discours, le secrétaire général du Hezbollah libanais a rendu hommage à la mémoire du martyr Rassem Soleimani, commandant de la force Rote du corps des gardiens de la révolution islamique. Son image, son âme et sa pensée resteront éternelles et encourageront l'axe de la résistance sur tous les fronts. La police nigériane a confirmé mercredi que plus de 20 étudiants enlevés dans un établissement d'enseignement supérieur de l'État de Kaduna, dans le nord-ouest du pays, ont été libérés. Mohammad Jalik, porte-parole de la police de Kaduna, qui a confirmé cette information dans un communiqué, a déclaré que les étudiants enlevés du Collège fédéral de mécanisation forestière ont retrouvé leur liberté après 55 jours de captivité. Ils avaient été enlevés le 11 mars par un groupe d'hommes armés inconnus qui avait attaqué leur établissement situé dans la ville d'Afaka, dans la zone de gouvernement local d'Igabi. Le jour suivant, 39 étudiants avaient été déclarés disparus par le gouvernement de l'État. Deux annonces distinctes du gouvernement de l'État début avril avaient confirmé que 10 étudiants du collège avaient été libérés. Les étudiants nouvellement libérés subissent actuellement des examens médicaux dans un établissement de santé de Kaduna, selon M. Jalik. Le premier ministre de la République démocratique du Congo, RDC, Clément Mwamba, a présenté mercredi sa démission et celle du gouvernement au président Denis Sassou Nguesso, selon une source proche de la présidence. La démission a été acceptée par le président qui a adressé ses remerciements à l'ensemble des ministres pour le travail accompli durant 5 années de collaboration, a indiqué le cabinet dans un communiqué. Le président devra nommer un nouveau premier ministre dans les jours à venir. La démission de M. Mwamba fait suite à la réélection en mars dernier de Denis Sassou Nguesso qui, conformément à la constitution congolaise, doit nommer un nouveau premier ministre chargé de former une nouvelle équipe gouvernementale. Ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Syrie, navire sous-marin russe protège le pétrole iranien. Quelques heures après une frappe contre la côte ouest syrienne, frappe que la presse occidentale attribue à Israël et en quoi elle a vu une mise en garde anti-Russie, la marine russe a commencé l'escorte des cargaisons pétrolières iraniennes en direction de la Syrie. Selon le site militaire russe Aviapro, outre les navires de guerre, des sous-marins russes accompagneront les navires iraniens au large des côtes syriennes. Des sources militaires israéliennes ont rapporté que les sous-marins russes assuraient la sécurité des pétroliers iraniens traversant la mer Méditerranée. Auparavant, on supposait que l'escorte des navires iraniens était effectuée uniquement par des navires de guerre russes. Cependant, en plus du fait que l'armée russe protégera les navires iraniens en surface, la Russie fournira également son soutien sous-marin. La flotte russe protège les navires marchands à destination de la Syrie, non seulement sur l'eau, mais aussi sous l'eau. Et le pétrole n'est pas la seule cargaison à bord. S'il est clair que 90% des pétroliers iraniens sont armés, le gouvernement israélien doit admettre qu'il est presque impuissant à bloquer la route maritime de l'Iran à la Syrie en raison de la volonté de la Russie à protéger les intérêts de ses partenaires iraniens et syriens dans la région. Or, la Russie a choisi ses frégates, patrouilleurs et sous-marins équipés de missiles de croisière calibre pour assurer la protection des cargaisons iraniennes en Méditerranée et au Moyen-Orient. Israël en a peur et n'ose pas bouger quand la Russie protège les transports iraniens. Selon les dernières images satellites, il y a aujourd'hui 2 sous-marins russes armés de missiles de croisière calibre au large des côtes syriennes. Cependant, il est évident que le nombre de ces sous-marins peut être beaucoup plus important et une agression contre les navires iraniens pourrait permettre à la Russie de riposter. La perspective des pétroliers et navires marchands iraniens protégés par les calibres russes n'est qu'un seul aspect de la crainte israélienne. Il se peut bien que l'Iran décide de concert avec la Syrie et la Russie, avec qui il a créé une coalition méditerranéenne, de déployer à Tartous ses unités navales. Il y a 2 jours, le commandant adjoint de la marine iranienne évoquait la grande capacité de la marine iranienne à assurer la sécurité maritime dans les eaux libres, et ce dans une zone d'une superficie de 2 510 000 km. Le golfe Persique est l'une des régions et des voies navigables les plus riches du monde, qui a attiré de nombreuses puissances à travers l'histoire, a déclaré le contre-amiral Gholam Reza Tahani, commandant adjoint de la marine iranienne, lors de la réunion spécialisée pour la commémoration de la fête nationale du golfe Persique. Saluant le fait que le golfe Persique fait partie de l'identité de l'Iran islamique, il a précisé. L'accueil par l'Iran d'exercices navals conjoints avec la Russie est le signe des capacités navales iraniennes à l'échelle internationale. La puissance navale de l'Iran va au-delà du golfe Persique et aujourd'hui, la marine iranienne est en mesure de maintenir la sécurité du pays hors de ses frontières. Cette dernière surveillant les eaux libres sur une superficie de 2 710 000 km pour anticiper tout risque, a-t-il également ajouté. Les propos interviennent sur fond des inquiétudes des États-Unis par les activités navales de l'Iran exprimées par John Kirby, porte-parole du Pentagone alors qu'il commentait les développements en Asie de l'Ouest. Interrogé sur la récente confrontation entre les navires de guerre iraniens et américains dans le golfe Persique lors d'une conférence de presse dans la soirée du lundi 3 mai, John Kirby a dit « Par la voie diplomatique, nous avons exprimé notre préoccupation concernant les activités de la marine iranienne qui affectent la sécurité de la région du golfe Persique. » Et qu'en dirait Kirby maintenant que la Russie et l'Iran comptent créer une coalition en Méditerranée orientale?
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, on va aborder cette visite au Liban et du ministre français des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian. M. Le Drian est attendu à Beyrouth où il doit s'entretenir avec des personnalités des politiques libanaises. À en juger par des informations avec le président libanais et Michel Aoun, avec le président du Parlement libanais et Nabi Berri. L'objectif de cette visite du ministre français des Affaires étrangères à Beyrouth est de s'entretenir surtout avec les autorités libanaises de cette réforme, de cette feuille de route destinée en fait à apporter des réformes qui sont selon en fait Paris nécessaires pour permettre en fait et l'arrivée des internationales pour permettre surtout en fait la formation d'un nouveau gouvernement. Quand même, cette visite à Beyrouth du chef de la diplomatie française intervient à un moment où Paris a annoncé il y a quelques jours en fait une série de sanctions contre certaines personnalités politiques libanaises. Paris qui a en fait annoncé avoir restreint l'accès au territoire français de certaines autorités libanaises. Bon, on va vous parler de cette visite au Liban du ministre français des Affaires étrangères avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Damas, un juriste français spécialiste des questions internationales, Maître Arnaud Devollet. Maître Devollet, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous. Bonjour aux téléspectateurs et bonjour à votre invité.
Et l'autre invité de la mission d'aujourd'hui, qui est en ligne avec moi pour cette émission depuis Toulouse, c'est un spécialiste français des questions internationales, un analyste politique, un très bon connaisseur des questions relatives au Moyen-Orient. Il s'agit de M. Pierre Dortiguier. M. Dortiguier, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, M. Narosti. Bonjour à tous vos auditeurs. Et bonjour, bien sûr, à M. Maître Devollet de Damas.
Monsieur Dortiguier, on va commencer avec vous notre émission d'aujourd'hui. Quand première question, de quelle analyse portez-vous sur cette visite au Liban du ministre français des Affaires étrangères?
Eh bien, elle s'inscrit à notre avis dans la suite même de la politique de M. Macron lorsqu'il est venu au Liban, c'est-à-dire de vouloir former, avec l'intention donc de vouloir former une sorte de coalition politique rassemblant bien sûr l'ensemble des forces, mais des forces libanaises qui ont été choisies, voyez-vous, avec un dénominateur commun, à savoir celui d'accepter, de se soumettre en somme, aux impératifs du Fonds monétaire international, enfin aux impératifs de tous ceux qui, sous prétexte de rétablir le Liban, qui a été attaqué, vous savez, attaqué par les attentats, qui a été meurtri, de le guider en somme, c'est-à-dire d'instaurer, si je puis dire, un nouveau protectorat économique ou financier. Alors, bien sûr, ceci aurait été impossible il y a quelques années, mais la situation matérielle du pays, l'étouffement dans lequel il se trouve, la destruction, non seulement destruction économique, mais, le fait que de nombreux investissements, ont quitté le Liban, ceci me semble, être relevé, d'une pression, justement, et que monsieur Le Drian, que nous voyons, bien sûr que nous savons ministre des Affaires étrangères, mais que nous voyons toujours aussi comme l'ancien ministre des Armées, puisse, imposer ce genre de politique, qui est une politique, qui est une reprise, évidemment, très ancienne, une reprise quand même, je le dis, du protectorat que nous avions au Liban.
Monsieur Dortiguet, oui. Vous dites que voilà, si le Liban finit par se soumettre, d'après vous, à ces impératifs du Fonds monétaire international, la conséquence serait en fait un protectorat de politique et de financier, oui, pour le pays. Vous dites que l'objectif du ministre français des Affaires étrangères au Liban également, c'est en fait de conduire les autorités françaises à accepter, les autorités libanaises à, oui, admettre, à accepter, si vous voulez, ces contraintes. Monsieur Dortiguet, le pays a-t-il, le Liban, je parle le Liban, le pays a-t-il d'autres solutions dans l'état actuel des choses?
Eh bien, malheureusement, on peut dire que non, il n'a pas d'autre solution, il est au pied du mur, c'est dire victime d'une agression. Agression qui a été, qui a plusieurs formes, et la dernière explosion qu'il y a eu à Beyrouth est une forme de cette agression. Il ne peut rien faire d'autre, c'est-à-dire que c'est à leur corps défendant que les autorités libanaises, et nous le savons, enfin, nous ne sommes pas ici pour distribuer des éloges, mais enfin, chacun reconnaît la noblesse, l'attitude du général Aoun, qui a bien conduit le Liban, nous savons, mais bien sûr, Nabi Berri, qu'on a joué, d'une réputation tout à fait honnête et de patriotique, voyez-vous. Donc, nous ne soupçonnons pas du tout, si vous voulez, notre sentiment intérieur, le patriotisme de ces personnes. Mais disons qu'il s'agit d'une agression, d'une brutalité, exactement comme un pays est envahi brutalement par un autre, et donc impose, sa volonté. Je crois cependant que vis-à-vis du Hezbollah, ce sera difficile. Ils tenteront de vouloir fractionner le mouvement en une partie politique et une partie dite militaire. Ça a déjà été annoncé chez nous depuis le voyage de M. Macron. Je ne crois pas que cela soit possible, mais malheureusement, ce qu'il y a dans le Liban, c'est la blessure économique, la blessure financière,
qui est très, très grave. Monsieur Dortiguet, très très rapidement, s'il vous plaît, parce que j'ai fait beaucoup d'attendre, maître de volée, vous parlez en fait du Hezbollah libanais. Et la résistance, le Hezbollah dit que voilà, le pays doit s'orienter, entre autres, vers l'Est également, vers la Chine, vers la Russie, vers l'Iran. Le Hezbollah estime que voilà, le pays, le Liban, doit avoir bien sûr des relations avec l'Occident, mais doit s'orienter désormais vers l'Est, la Russie, la Chine et l'Iran et d'autres pays pour en fait permettre au Liban de sortir de cette situation actuelle.
Mais je vais répondre très brièvement par la formule japonaise. L'Asie aux Asiatiques, c'est exactement ce que demande le Liban. C'est ça, naturellement, l'évolution naturelle, bien sûr. Et je crois que c'est pour empêcher, justement, je ne veux pas faire attendre de Belay, mais c'est pour empêcher, justement, cette évolution naturelle, cette reconnaissance d'une situation réelle, que, justement, à notre avis, prend son importance la visite de M. Le Drian, que je désigne toujours comme notre ministre des Affaires étrangères, et en même temps, évidemment, notre ancien ministre de la Défense, une personnalité fort importante, d'ailleurs, beaucoup plus importante que son poste. Il a, je crois, dans la maçonnerie, par exemple, il a une très, très grande importance.
Merci beaucoup, Maître de Volley. Je vous ai en fait fait attendre beaucoup. Je vous prie de vouloir en fait de m'en excuser. Mais Monsieur de Volley, en fait, venez d'entendre les explications de Monsieur d'Ortiguet. La parole est à vous. Quelle analyse portez-vous sur cette visite au Liban du chef de la diplomatie française, Monsieur Le Drian, s'il vous plaît?
C'est avant tout une espèce de forme de la mafia qui vient à nouveau faire pression sur son client forcé, qui vient imposer des dictates de la finance internationale, dernièrement effectivement la perte de l'indépendance politique du Liban, puisque c'est le prix à payer. Le prix à payer, c'est pour le gouvernement de Michel Aoun, et désavouer son alliance avec Hezbollah, simplement. Cet objectif est de se rassurer par la distance libanaise. Pour les raisons inter alia que vient d'évoquer le professeur d'Antibes, à savoir empêcher les pays de se tourner vers l'Est, et les garder dans l'orbite des organisations internationales telles que les FMI, la Banque mondiale, et en parallèle, certainement, éliminer les Hezbollah du jeu politique. Avec la durée dans la durée, le point de vue comme étant une entité qui en marge de la société libanaise et de ce qui n'est pas au reste de la société libanaise. Et vous verrez que s'ils arrivent dans un premier temps à participer à Oud, qui est une autre parlement, l'objectif à terme, ce sera de neutraliser au sens top la résistance libanaise. Et tout est fait en place, et en place complètement, pour que ce soit ce scénario qui s'impose. Ils partitionneront de facto le pays pour pouvoir mieux réduire la résistance dans ces mentières suite du pays. Et comme par hasard, ils trouveront les moyens et les crédits pour armer l'armée des budgets. Ils inventeront un prétexte à un moment donné ou à un autre que leur médicaments. Et avant de passer du petit, du bon, bien sûr. C'est le petit.
Maître de Volley, en fait, le problème au Liban, c'est également cette nécessité de vouloir former un nouveau gouvernement pour en fait permettre au pays de sortir en fait de cette impasse politique et financière. Les autorités françaises déclarent que voilà que leur objectif c'est d'encourager la classe politique libanaise à former en fait un nouveau gouvernement, mais cet objectif n'a pas été atteint jusqu'à présent. Mais Maître de Volley, ces efforts déclarés de Paris pour vouloir en fait aller vers la formation d'un nouveau gouvernement au Liban interviennent à un moment où, selon toujours des informations, il y a parmi des éléments extérieurs, par exemple les États-Unis et également l'Arabie saoudite, qui ont mis tout dans la balance, semble-t-il, pour entraver le processus politique au Liban, le processus conduisant à la formation d'un nouveau gouvernement au Liban. Comment pouvez-vous expliquer cette contradiction qui existe entre, d'une part, en fait, cette volonté au moins quand même déclaré de Paris, de vouloir en fait encourager les autorités libanaises à former un nouveau gouvernement et ses efforts de la part, par exemple, de certains régimes dont l'Arabie saoudite et les États-Unis pour ne pas permettre, si vous voulez, la formation d'un nouveau gouvernement au Liban souhaité par Paris.
Écoutez, je pense que tout ça participe à... C'est un jeu de dupes où l'idée c'est de créer un sens de frustration dans l'opinion publique du pays où on montre du doigt une fois de plus la classe politique comme étant incapable de prendre en compte les intérêts les plus immédiats de la population et pour créer cette espèce d'effet d'histoire parce que, en fait, techniquement parlant, la situation est la suivante. Vous avez le gouvernement de Michel Aoun, chef de l'État, et le gouvernement de KSSK, donc le gouvernement restant de M. Diab, qui est un peu un gouvernement qui s'occupe des affaires courantes, mais qui n'a pas vraiment le mandat pour lancer des grandes initiatives. Ça, c'est l'erreur qu'ils ont fait quand ils ont donné leur démission suite à l'explosion du port de Beyrouth, alors qu'aucune commission d'enquête indépendante n'avait établi la responsabilité du gouvernement. Donc c'est une erreur qui paie encore aujourd'hui. Et fondamentalement, nous sommes confrontés à deux visions, à savoir donc le plan français, qui est incarné par M. Harimi, qui porte sur la formation d'un gouvernement d'experts, donc qui en rien ne respecte les accords de Sahel, qui est donc une contradiction inhérente à l'esprit de la Constitution et de 1929, qui prend en compte l'attribution des portefeuilles ministériels en fonction des faits et en fonction des remises de talent. Le président Raoul, lui, a s'inscrit dans cette logique, il est le garant de la Constitution, et il a bien compris que s'il n'arrive pas à obtenir une espèce de loi sur le contrôle des capitaux, et surtout l'établissement d'un audit financier, juridique-comptable, sur une espèce d'autopsie forensique qui s'est passée durant le mandat de Riyad Salamé à la Banque centrale pendant 25 ans, on n'arrivera pas à tirer au clair et à souligner les causes de la situation dans laquelle nous trouvons les banques. Et on permettra peut-être même à certains qui ont bénéficié, comme des bandits, de rester actifs dans la vie politique libanaise. Et le président Aoun, lui, ne peut pas concevoir ça. Il fait maintenant l'histoire le regarde. Son mandat s'achève en 2023 et il se forcera par tous les moyens de faire en sorte que la lumière soit faite, ce qui s'est passé depuis 20 ans. Et en face, visiblement, derrière cette idée de sol de route, d'experts, finalement réduit d'experts à la Mario Draghi qui a perdu sa vie, en disant que c'est le même pas, c'est le plus contrôle du pays. Il devait vous apprendre à ce qu'il passe tout pour qu'on fasse jamais la lumière sur ça. Parce que ça mettait en éclair, disons, le rôle de certains des agents de la finance internationale occidentale ont cumulé souvent durant toutes ces années, jusqu'à effectivement activer les mécanismes et suivre le dispositif en fin 2019 pour mettre le pays en couple aidé, en tout cas pour les élus. Donc, ce sont les grands doutes qui sont vraiment sur la table en ce moment. Et c'est pour ça qu'arriver, il ne veut pas qu'on se détaille. Il ne veut pas qu'il y ait un audit parce qu'il en a lui-même, lui et son père, bénéficié énormément. C'est comme demander à un pyromane d'adapter des comportements visant à éteindre l'incendie. Vous voyez, Aoun prend ses responsabilités et il impose, c'est un, il y a une loi qui soit passée sur le contrôle des capitaux, mais surtout qu'il y ait un audit comptable sur la façon dont la Banque centrale a géré les finances du pays depuis 25 ans, avant qu'il ne puisse être question d'un gouvernement réduit d'experts qui, comme je dis, en plus, soit contradictoire avec l'esprit des accords d'État. Donc c'est ça, les enjeux. C'est pour ça que pour l'instant, les partis ne s'accordent pas sur la feuille des villes françaises.
Monsieur Tortiguet, s'agissant toujours de cette initiative française, le Hezbollah libanais ne s'est pas opposé à l'initiative française. Le Hezbollah libanais même a salué, si vous voulez, la visite, vous en souvenez, à Beyrouth, oui, du président français d'Emmanuel Macron. Le Hezbollah libanais dit qu'il faut respecter la volonté du peuple libanais, la volonté de la majorité au Parlement libanais et de permettre en fait aux Libanais de décider eux-mêmes librement de leur initiative, de leur choix et de ne pas en fait, comme vous l'avez dit, utiliser une telle situation dans laquelle se trouve le peuple libanais comme un levier de pression contre, si vous voulez, ces derniers. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Dortiguet ?
Eh bien, il est certain que la présence du gouvernement de M. Macron, la présence de M. Le Drian, c'est-à-dire que la présence française, disons, l'initiative française, est destinée à rassurer l'ensemble du camp patriotique, si je puis dire, libanais, sur, disons, je ne dis pas les bonnes intentions, mais sur, peut-on dire, oui, le sérieux des propositions internationales qui sont faites au Liban. Parce que il est de fait que, même si on parle de protectorat, etc., la France jouit, a joui quand même toujours d'une certaine d'une préférence manifeste par rapport justement à l'Arabie Saoudite et d'autres qui ont ses propres clients, comme on connaît M. Hariri et autres. Mais je crois qu'il y a un abus, malheureusement, de notre présence, c'est-à-dire que nous servons, et je le crains, je dis ça vraiment en le déplorant, je crains que nous ne soyons là que pour occuper, si je puis dire, les autorités libanaises, afin de laisser mettre en œuvre justement une sorte de liquidation de la banque libanaise. Je crains que nous ne soyons là, disons, que pour pouvoir donner, disons, une sorte de médicament, disons, contre la douleur. Et que, en réalité, vous avez signé tout à l'heure les initiatives américaines, les initiatives saoudiennes. Je crois que ce sont elles qui sont effectivement à craindre. Et la question qui se pose, c'est est-ce que la France veut parler directement au Liban avec la bonne intention, disons, de conserver, de maintenir l'unité libanaise, par exemple, l'unité politique libanaise, la paix civile, disons, ou bien servirait-elle, par exemple, disons, de calmant à une opération douloureuse. Et cette opération douloureuse, je la vois comme essentiellement financière dans du Fonds monétaire international.
Et surtout, M. Dortiguet,
je crains, bien sûr,
Monsieur Dortiguet, oui. Surtout s'entretenir avec l'ensemble des composantes, si vous voulez, de social en France, au Liban, pardon.
Oui, en effet, mais c'est-à-dire que le propre, justement, des Français, c'est de vouloir s'entretenir, ben, c'est ce qui se propose, avec l'ensemble des forces au Liban. Mais est-ce que il n'y a pas, est-ce que Liban eux-mêmes, c'est possible de dire, voilà, nous avons telle force du Hezbollah, par exemple, mais nous préférons telle tendance du Hezbollah, la tendance politique, comme on disait ici chez nous, il y a récemment, pendant le voyage de M. Macron, par rapport à la branche militaire. C'est vouloir opposer, justement, une organisation, l'organisation elle-même. C'est-à-dire, ça n'a pas de sens. Et donc, nous craignons, disons, non pas ce qui se fait, mais ce qu'il y a derrière la tête, justement, des négociateurs. Et notre pays étant aujourd'hui affaibli, il faut le reconnaître, sur le plan financier et économique, est-ce que nous avons, c'est la question que je pose et que je laisse à l'histoire, est-ce que nous avons nous-mêmes la capacité, je ne dis pas la volonté, mais la capacité de nous imposer comme des amis du Liban, mais face à ses adversaires?
Merci beaucoup, Monsieur Dortiguet, si vous le permettez, on va en fait avoir les éléments, oui, de réponse de cette question que vous posez de la part de Maître de Devollet. Maître Devollet, est-ce que la France a-t-elle les capacités de s'imposer comme des amis des Libanais, également comme l'adversaire, si vous voulez, en quelque sorte, dans cette histoire?
Bah, encore, faudrait-il que la France soit indépendante pour qu'elle puisse être une amie de l'Europe. La France participe à une coalition d'États qui ont elle-même été pris en otage par la grande finance internationale et qui avance cette question avec alacrité et avec détermination. On s'aperçoit toute la haute de la pandémie, là que la résistance est exténuée en plusieurs maillots, qui sont les plus chacun une attention adaptée aux textes locaux. Et le Liban ne dérange pas à cette nouvelle stratégie du plan occidental. Et dans ce contexte-là, il faut se situer à la France comme étant un joueur de partition, dans une partition d'un clan occidental qui souhaite contrecarrer sur toutes les unités de l'Iran, d'intégrer un espace économique eurasiatique qui a des natures à lui faire de l'ombre pour les 50, 61, 30 prochaines années. Donc, c'est parfaitement conscient, c'est du calcul à long terme. Et au Liban, effectivement, une fois qu'on aura mis l'économie à genoux, ce qui sera présenté comme l'avis traditionnel qui disait du bien, et donc on aura cette équipe de données fois de l'arrivée et du port de Libanais, plein de ports de Libanais, quelquefois, refusent de reconnaître, ce sont la volonté de se tourner vers l'Est.
Merci.
Il n'en est pas question pour la finance internationale, il n'en est pas question du tout.
Maître Arnaud de Volley, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas. Mes vifs remerciements vont également à vous, Monsieur Dortiguet, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Toulouse. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée et je vous dis au revoir, amis, à très bientôt.
Et la pratique des courants takfiristes. Un haut responsable de Daesh a été arrêté à Istanbul. Considéré comme le bras droit de son ancien chef, Abu Bakr al-Baghdadi, Passim a été arrêté dans le quartier d'Ataşehir à Istanbul. Il s'appelle Basim, ce qui est son nom de guerre, et il vivait planqué en Turquie. Ce dimanche, les médias turcs ont annoncé la capture d'un haut responsable présumé du groupe Daesh, considéré comme ayant été le bras droit de son ex-leader, Abu Bakr al-Baghdadi. Un nom clé de Daesh a été arrêté, précise le journal turc Hurriyet. D'origine afghane, le fugitif a été intercepté le 28 avril par la police lors d'un raid survenu dans le quartier d'Ataşehir, situé sur la rive asiatique d'Istanbul. D'après l'agence de presse DHA, il était arrivé en Turquie avec un faux passeport et une carte d'identité. Toujours selon les médias turcs, cette grosse poitrine de l'organisation takfiriste Daesh avait joué un rôle stratégique lors de la cavale d'Al-Baghdadi en l'aidant à se cacher à Idlib, dernier bastion des terroristes au nord-ouest de la Syrie, à proximité de la Turquie. En 2019, le chef de Daesh avait finalement été repéré et tué pendant un raid des forces spéciales américaines appuyées par les combattants kurdes syriens. Basim était également responsable de la branche militaire du groupe Daesh, précise la chaîne de télévision NTV. La Turquie, qui partage quelques 900 kilomètres de frontière avec la Syrie, mène régulièrement des opérations antiterroristes contre les membres suspects de Daesh. En 2016, une vague d'attentats particulièrement meurtriers, portant la marque de Daesh, avait endeuillé le pays en frappant des cibles symboliques. Aéroport Atatürk, avenue Istiklal, ou encore une discothèque d'Istanbul, où une fusillade lors de la nuit de la Saint-Sylvestre avait fait 39 morts. Depuis, de nombreuses attaques ont été empêchées. Au cours des 4 à 5 derniers mois, la Turquie s'est révélée être une histoire à succès dans sa lutte contre le terrorisme, se targue le chef de la police, cité par le quotidien pro-gouvernemental Sabah. Quand le calife du groupe Daesh informait les militaires américains le numéro 1 de Daesh depuis octobre 2019, a subi en 2007 et 2008 des interrogatoires de l'armée américaine en Irak. Alors membre d'une organisation encore secondaire, l'État islamique en Irak, futur Daesh, il semble s'être montré particulièrement zélé pour dénoncer ses camarades. Les autorités américaines avaient mis le temps avant de l'identifier. Lorsqu'un certain Abu Ibrahim al-Hashemi al-Qurayshi devient le numéro 1 de Daesh en octobre 2019, après la mort de son califat autoproclamé Abu Bakr al-Baghdadi, les services de renseignement manquent d'informations sur lui. Surnommé tantôt le destructeur, tantôt le professeur, on semble ignorer la trajectoire de cet homme de l'ombre. L'armée américaine fait finalement le lien avec un jeune militant arrêté en été 2007 en Irak et qui s'était montré particulièrement coopératif, Amir Mohammad Abdulrahman al-Mawla. Ancien officier de l'armée irakienne sous Saddam Hussein, al-Mawla rejoint l'antenne nationale d'Al-Qaïda après la chute du régime. Originaire de la région de Tal Afar, où il serait né en 1976, on lui prête des racines turkmènes. Cette origine non-arabe le disqualifiant pour prendre la tête du califat, un tour de passe-passe sur ses origines a fait de lui un descendant direct du prophète, un Sayyid. En prenant le patronyme al-Hashemi al-Qurayshi, le désormais nouveau calife s'inscrit dans la lignée de la tribu Qurayshite et du clan Hashemite. Présenté par certaines sources comme le principal juge de Daesh en charge de l'application de la charia, il s'est aussi illustré pour son rôle majeur dans la campagne d'extermination de la minorité yézidi. Mais c'est une trace beaucoup plus ancienne que vient de révéler l'armée américaine. Un prisonnier modèle et informateur zélé. Arrêté en juillet 2007, il va se montrer particulièrement coopératif, voire zélé. Des rapports d'interrogatoire menés alors par des officiers américains viennent d'être déclassifiés et publiés. Ils détaillent l'ensemble des informations recueillies de la bouche d'al-Mawla et donnent des éléments sur sa personnalité et le contexte de ses aveux apparemment spontanés. Le Pentagone avait déjà laissé filtrer des éléments qui montraient que le calife avait des antécédents d'informateur. Mais la quantité de documents publiés cette fois sont d'une toute autre ampleur. 53 rapports d'interrogatoire circonstanciés étalés sur les quelques mois de détention du détenu, le dernier datant de la fin 2008. Décrit comme un prisonnier modèle, al-Mawla met une bonne volonté manifeste à dénoncer ses rivaux, particulièrement ceux du département communication de l'organisation Daesh, ainsi que les terroristes takfiristes non irakiens. Il a ainsi donné une description précise du quartier général de la branche média de l'État islamique en Irak, jusque-là secret, allant même jusqu'à indiquer la couleur de la porte. Il y a une enseigne qui indique « vidéo de mariage », a-t-il même expliqué aux enquêteurs. Mais ce bureau n'a jamais produit aucun film de mariage. Al-Mawla se serait montré encore plus loquace à propos de celui qui était alors le numéro 2 de l'organisation terroriste, c'est-à-dire Abu Kaswara. Le détenu a dessiné la carte de son quartier général et même donné le nom de son principal coursier. Quelques semaines plus tard, ce dirigeant de la nébuleuse Al-Qaïda sera tué lors d'un raid de l'armée américaine dans son fief de Mossoul. On peut supposer qu'Al-Mawla a ainsi téléguidé l'élimination d'un rival au vu de sa progression rapide dans l'organisation par la suite. Un rapport note que le détenu semble encore plus coopératif à chaque interrogatoire. Al-Mawla aide les dessinateurs à élaborer des portraits robots et détaille les noms des cafés et restaurants préférés de ses camarades ou les endroits où ils gardent de préférence leur voiture. Il guide même les enquêteurs militaires pour décrypter son répertoire téléphonique, leur donnant les numéros de 19 dirigeants de son organisation.
Thank you.